Et bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure des oreilles loin du fond. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Ce soir, on va parler d'un sujet d'actualité aux oreilles, puisqu'on va parler de l'Europe. Alors oui, c'est un sujet d'actualité, mais comme on est aux oreilles, on va y ajouter une petite touche de féminisme, puisqu'on va parler des femmes dans la construction européenne. Et oui, vous les avez reconnus, c'était ce groupe de Suédois aux coupes totalement improbables qui avait pour nom Europe. C'est voilà, le sujet de ce soir, puisque ce soir, on n'a pas d'invité, mais on va vous passer des extraits d'une intervention de Françoise Thébault, qui est une historienne des femmes, de l'histoire des femmes et des spécialistes de l'histoire des femmes et du féminisme, qui était venue présenter l'ouvrage collectif « L'Europe, une chance pour les femmes ?» point d'interrogation. Présentation qui avait eu lieu dans le cadre des conférences Présage, qui est le groupe de recherche sur le genre à Sciences Po. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de leur programmation et de la conférence de ce soir en tapant conférence Présage juste dans votre moteur de recherche. Et puis, on va vous mettre leur lien sur notre site. Alors, on vous passe des extraits de sa présentation sur cet ouvrage collectif. Dans ce premier extrait là, qu'on va vous passer dans un instant, elle revient sur justement la genèse de cet ouvrage où elle explique qu'en fait, elle a eu envie de se pencher sur le genre de l'Europe après avoir mené ce type de recherche sur les femmes dans l'Organisation internationale du travail. Et en fait, elle se pose deux questions. D'abord, qu'est-ce que les femmes ont fait pour l'Europe et puis qu'est-ce que l'Europe a fait pour les femmes. Donc elle nous présente d'abord quelques mères fondatrices, hein, puisque l'Europe n'a pas que des pères fondateurs, quelques mères fondatrices qui sont d'ailleurs en lien avec le suffragisme, le pacifisme et l'antifascisme de l'époque. Voilà, on l'écoute.
C'est un ouvrage collectif produit dans le cadre d'un LABEX qui s'appelle EHNE, Écrire une histoire nouvelle de l'Europe, même si c'est toujours nouveau, on est toujours nouveau par rapport, c'est aussi un affichage, mais il y a quand même une volonté d'écrire cette histoire nouvelle de l'Europe. Ce LABEX est un LABEX important qui a commencé en 2012 jusqu'en 2020, qui comprend 6 ou 7 axes. Un axe sur la situation matérielle, le politique, l'art, l'Europe et les autres, et un axe genre. Alors que veut faire l'axe genre du LABEX ? Écrire une histoire genrée de l'Europe, ce qui veut dire à la fois s'intéresser à la signification d'être européen et européenne aujourd'hui et dans l'histoire, mais aussi comment penser et construire l'Europe a des effets de genre. Donc cet ouvrage est un ouvrage collectif avec 23 contributions dans diverses disciplines, le droit, la sociologie, les sciences politiques, mais surtout l'histoire, c'est un labex d'historiens. C'est l'ouvrage dont on parle aujourd'hui, c'est le résultat d'un colloque qui s'est tenu en novembre 2015 après appel à contribution. Et si je suis une coéditrice d'un ouvrage collectif, j'ai véritablement souhaité ce colloque. Alors pourquoi je me permets de citer un ouvrage qui me tient beaucoup à cœur, qui n'a pas fait beaucoup de bruit pour l'instant, paru en 2017, qui est présentée comme une biographie, biographie de Marguerite Thibert. Mais c'est une approche par une actrice et à travers ce que j'appelle une biographie impersonnelle et collective de cette femme qui a vécu près de 100 ans, 1886-1982, j'approche de... Je genre de multiples univers, dont une organisation internationale, qui est l'Organisation internationale du travail. Et en faisant cette recherche, j'ai consulté énormément d'archives à Genève et ailleurs, j'ai à la fois tenté de produire une histoire genrée de l'administration de cette Organisation internationale du travail dans l'entre-deux-guerres. Je me suis rendu compte des énormes mobilisations de femmes autour de ces organisations de Genève dès l'entre-deux-guerres. Les femmes ont placé beaucoup d'espoir dans ces organisations de Genève, à la fois l'OIT qui existe toujours et la Société des Nations qui n'existe plus. Je me suis aperçue aussi, et on trouve la même chose pour l'Europe, ces phénomènes de synergie ou d'action collective entre les fémocrates à l'intérieur de l'institution, et Marguerite Thibert en est une femme féministe qui travaille comme fonctionnaire internationale, et les mouvements de femmes à l'extérieur. Parce que ces femmes à l'intérieur sont aussi des militantes de multiples organisations inscrites dans des réseaux divers et variés de militantisme au féminin. Alors, ouvrage en 3 parties chronologiques et une partie thématique. Donc, une partie chronologique sur ce qu'on va appeler, je vais y revenir, le genre de l'européisme dans l'entre-deux-guerres. Une deuxième partie intitulée « Des femmes dans l'ombre d'institutions masculines » sur les débuts de la construction européenne jusqu'au milieu des années 70. Une troisième partie à partir de la fin des années 70, une Europe féministe, point d'interrogation. Vous voyez, il y a beaucoup de points d'interrogation dans l'ouvrage. Et ce point d'interrogation veut dire que l'objectif de l'ouvrage est finalement de jauger non. La réponse, c'est ni oui ni non. C'est oui dans un certain sens, mais avec beaucoup de limites, ou non, mais cependant. C'est toujours un peu comme cela. Et une dernière partie, plus courte, axée sur le couple franco-allemand. Alors, les deux questions qui traversent l'ouvrage, j'y reviens. D'une part, qu'est-ce que les femmes ont fait pour l'Europe et qu'est-ce que l'Europe a fait pour les femmes? C'est ça l'objectif du livre, de donner déjà des jalons pour répondre à ces deux questions. Alors, je vais commencer par la que j'ai écrit en deuxième. Qu'est-ce que les femmes ont fait pour l'Europe? Alors, on évoque volontiers des pères de l'Europe. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de l'Union européenne, il y a une entrée, les pères de l'Union européenne, les pères fondateurs. Je ne sais pas si vous connaissez les deux personnages représentés, peut-être pas le premier, l'Austro-Hongrois, Richard Coudenhove-Kalergi, fondateur dans les années 1920 de l'Union pan-européenne. Et cette Union pan-européenne est le principal mouvement européiste de l'époque. L'autre personnage beaucoup plus connu, le français Jean Monnet, hein, promoteur de la communauté européenne du charbon et de l'acier, hein, et de la communauté économique européenne dans les années 50. On connaît aussi très bien Robert Schuman, hein, vous connaissez très bien Robert Schuman, dans la commune de naissance de laquelle, et je l'ai découvert après l'apparition du bouquin, sinon on l'aurait cité, hein, un monument hein, au père fondateur inauguré en 2012 avec, on aurait pu en mettre plus que quatre de figures, mais il y en a quatre, hein, l'italien Cide Gasperi, les deux français Robert Schuman, Jean Monnet, hein, et l'allemand Konrad Adenauer. Il n'y a pas de monument hein, aux mères fondatrices hein, de l'Europe. Alors, un des premiers apports de l'ouvrage est de souligner qu'il existe aussi des mères, voire des grands-mères de l'Europe, et surtout de souligner que ce n'est pas seulement Louise Weiss, parce que si on veut citer un nom, celui qui vient le plus souvent à la pensée, hein, c'est le nom de cette femme, Louise Weiss, 1893. Hein. Et il y a une très, très intéressante contribution, je trouve, dans cet ouvrage, d'Yves Denecher, qui réévalue l'engagement européiste et le rôle européiste de Louise Weiss. Il montre notamment que cette femme, hein, qui a joué un rôle historique important, hein, je vais le dire en deux, trois mots, a construit son personnage d'européenne, notamment avec la publication entre 68 et 76 des 6 tomes de ses mémoires qu'elle intitule « Mémoires d'une européenne ». Il y a une sorte de construction de son personnage public. Et notamment le deuxième tome s'appelle « Combat pour l'Europe ». Elle est vue également comme une européiste et une européenne par le discours dont on se souvient, hein, qu'elle prononce le 17 juillet 1979 hein, comme doyenne du premier Parlement européen élu au suffrage universel. Alors, quel rôle est-elle ou non une européiste? Certes, hein, comme rédactrice en chef dans les années 20 de l'Europe Nouvelle, hein, un journal qui milite hein, pour des États-Unis d'Europe, pour une forme de construction européenne, elle a été européiste dans les années 20 et au début des années 30 pour l'idée d'une Europe garante de paix. Et elle a avancé des propositions en ce sens. C'est une brillandiste, soutenant le ministre des Affaires étrangères et sa volonté d'avancer, de dépasser l'antagonisme franco-allemand et de construire des formes de paix à l'époque. Mais à partir de 1934, elle quitte ce combat d'européiste pour s'engager dans un nouveau combat, le combat suffragiste. Et elle forme non pas un journal L'Europe Nouvelle, mais une nouvelle organisation suffragiste en France dans l'entre-deux-guerres, qu'elle intitule La Femme Nouvelle. Bon, elle utilise beaucoup, hein, comme nous, le terme de nouveau, L'Europe Nouvelle, la Femme Nouvelle. Et elle sait, ça a été une suffragiste qui a su mobiliser les médias pour faire avancer la cause du suffrage des femmes dans les années 30. Mais ce que souligne bien cette contribution, c'est que au moment des prémices de la construction européenne dans les années 50, Louise Weiss ne joue aucun rôle. Ses mères et ses grands-mères de l'Europe sont à rechercher, et il y a encore beaucoup de recherches à faire, hein, parmi les militantes du mouvement pan-européen, hein, longtemps décrit comme un mouvement d'intellectuels masculins, donc des hommes et des intellectuels. Une contribution d'une jeune historienne américaine qui fait une thèse sur le sujet souligne que les femmes constituent plus de 28% des membres de la section allemande de l'Union pan-européenne et qu'elles peuvent même avoir des fonctions de direction à l'échelle locale. Donc ce n'est pas seulement un mouvement d'hommes intellectuels. Ces femmes qui sont membres de l'Union pan-européenne dans les années 20 et 30 sont également membres ou bien sont proches d'une autre organisation, là uniquement de femmes, qui est née pendant la Première Guerre mondiale, qui est la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Hein. C'est la branche féministe qui est restée pacifiste durant l'entre-deux-guerres, alors que la plupart des mouvements féministes accepter le patriotisme et le nationalisme. Proche également des associations féministes qui soutiennent la Société des Nations à l'époque hein, et exercent auprès d'elles un véritable lobbying en faveur des droits des femmes. Ce lobbying de l'entre-deux-guerres auprès de la SDN ou de l'OIT a été en quelque sorte une expérience aussi pour le lobbying des associations de femmes auprès de l'Europe ensuite.
Et oui, vous êtes toujours sur les oreilles, loin du front, toujours sur FPP. Et c'était Chris qui chantait la marcheuse. Ce soir, on vous parle des femmes et on vous parle des femmes dans l'Europe, puisqu'on vous passe des extraits d'une conférence qui a été menée par Françoise Thibault autour de l'ouvrage collectif L'Europe, une chance pour les femmes, point d'interrogation. Conférence qui a lieu dans le cadre des conférences présages hein, qui sont menées par Sciences Po. Vous pouvez tout retrouver sur leur site. Juste avant la pause, Françoise Thébault donc, nous parlait des premières mères fondatrices hein, de l'Europe, qu'elle appelle aussi des fémocrates. Et dans ce deuxième extrait, en fait, on va faire le tour avec elle hein, de ces premières femmes fonctionnaires européennes et des moyens qu'elles ont trouvés pour agir dans l'institution européenne.
N'est pas citée dans l'ouvrage Ursula Hirschmann, qui est une militante fédéraliste, 1913-1991, donc plus jeune, presque une génération après Louise Weiss. C'est une Allemande social-démocrate antifasciste, donc qui quitte l'Allemagne nazie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, avec d'autres, son mari, d'autres, aussi Altiero Spinelli, elle rédige le manifeste de Ventotene pour une Europe libre et unie. On sait trop peu de choses également des militantes européistes des années 50 qui vont avoir œuvré au moment des premiers pas de la construction européenne. On a juste une contribution de nouveau d'Yves Denecher sur les Françaises européistes des années 50. Il décrit un peu à quel parti elles appartiennent, quels sont les ressorts de leur engagement, et on trouve les mêmes ressorts que dans l'entre-deux-guerres, dépasser l'antagonisme franco-allemand, assurer une paix durable. Parmi ces militantes européistes, une Française assez connue, qui a été aussi une des premières femmes sénatrices, qui a été membre aussi, qui a présidé le comité du travail féminin dans les années 70, donc Marcel Debout, 1908-2008, que connaissait très bien Marguerite Thibert. Elles ont travaillé ensemble au comité du travail féminin. Alors, ces femmes européistes des années 50 appartiennent à presque toutes les familles politiques, sauf au Parti communiste, qui dénonce derrière l'URSS un projet européen hostile à l'Union soviétique. L'ouvrage propose aussi d'entrer à l'intérieur des institutions européennes, d'observer leur fonctionnement, la place et les fonctions qui occupent les femmes. Alors certes, malheureusement, une contribution synthétique sur ce qu'on pourrait appeler le genre de l'administration européenne n'est pas présente, faute de travaux qui sont encore à mener sur le long terme. Il y a des phénomènes de féminisation, de carrières féminines qui s'améliorent au fil du temps, après des combats internes et externes. Combien de femmes dans l'administration, à quel poste, à quelle place dans la hiérarchie, avec quelle carrière, d'où viennent-elles et quelles sont leurs formations, encore beaucoup de choses peu connues, mais des éléments ont été pointés. J'aime bien la contribution sur la communauté européenne du charbon et l'acier, la masculinité, ce qu'on pourrait dire, de la CECA. Moi aussi, pour le Bureau international du travail et l'OIT, il y a une magnifique collection de photographies à Genève sur cette institution qui est jeune et qui donc se photographie. C'est une façon de se légitimer aussi, d'avoir des photographies, diffuser des photographies. On voit que des costumes, dans la haute hiérarchie, on voit que des costumes et des cravates. Donc les photographies sont extrêmement parlantes. Le rôle fondamental, jamais souligné, de certaines femmes, notamment les interprètes. On s'est dit en faisant cet ouvrage qu'il faudrait vraiment un travail sur le monde de l'interprétariat des organisations internationales. Elles jouent un rôle, elles sont fondamentales. Si elles traduisent mal, les négociations peuvent capoter. C'est une tâche extrêmement qualifiée, extrêmement difficile, extrêmement épuisante. On peut citer aussi François de Schoepfen. Là, vous avez encore une belle photo, que des costumes et une dame qui apporte le papier. C'est les secrétaires particulières de Jean Monnet. Il en avait trois, qui véritablement ont beaucoup œuvré pour lui. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, il montre aussi que des femmes ont su s'imposer peu à peu dans l'institution, dans l'administration européenne, et œuvrer pour les droits des femmes et une politique plus égalitaire. Donc, on pourrait les qualifier de fémocrates à l'intérieur de l'Europe. La Française Jacqueline Nonon, recrutée à la Commission européenne dès 1958, d'abord comme dactylo, parce que alors qu'elle a une licence, je crois, à l'époque, elle arrive à la Commission européenne, on la prend comme dactylo, tâche féminine. Donc il y a un recrutement, les qualifications des femmes au début de l'administration européenne sont très très peu reconnues, on les embauche dans des tâches jugées féminines. Elle va être en poste à la Direction Générale 5 Emploi et Affaires Sociales et va finir par pouvoir fonder en 1976 un bureau pour l'emploi et l'égalité des femmes qui prélude à une unité pour l'égalité des chances qu'elle dirige de 81 à 89. Dans le témoignage de Jacqueline Nonon, vous avez ceci, bon j'ai coupé, hein. Moi je m'étais battue pour moi avec succès, donc il fallait que les femmes se battent pour avoir l'égalité. On m'a laissé travailler du fait que ça n'intéressait personne. Ça, c'est comment une femme fonctionnaire qui a des convictions, et Marguerite Thibert disait des choses à peu près pareilles. Comment on peut agir, pas en sous-main, mais comme c'est pas important, on avance tout doucement. Et on ne voyait pas que mon affaire grossissait, grandissait au sein de la maison, devenait une chose très importante. Et son affaire, ça va être le bureau pour l'égalité des hommes et des femmes. Je me suis trouvée à la tête d'un groupe de travail qu'on a baptisé le groupe ad hoc pour l'égalité des femmes, et c'est de là qu'est partie la législation, notamment la directive de 1975. Deuxième femme dont on parle beaucoup dans l'ouvrage, je ne la connaissais pas avant ce travail, hein, ce colloque et ce travail, c'est une Italienne, Fausta Desormes Lavallée, hein, décédée en 2013, née à peu près au même moment que Jacqueline Nonon. Alors elle aussi, elle est journaliste de profession en Italie. Hein. Elle est d'abord embauchée comme contractuelle pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à être titularisée fonctionnaire pendant 10 ans. À l'OIT, c'est vrai aussi pour les femmes, ce temps de vacation extrêmement long. Hein. Mais elle va être titularisée à partir de 73. Elle va donc recruter à la Direction Générale de l'Information, où elle va créer et diriger l'unité information des organisations et de la presse féminine. Et elle lance le journal Femmes d'Europe. Alors là, vous avez le numéro 0, 15 juillet 1977. Et le texte très court est intéressant. Il faut que l'information circule dans ce grand corps qu'est la communauté européenne. Donc une volonté de rapprocher l'Europe des citoyens et de rapprocher l'Europe des femmes. Le bulletin que voici veut modestement y contribuer. Il ne s'agit encore que d'un numéro d'essai, publié cette fois uniquement en français, mais après, etc. Voulu par des femmes d'Europe, pour des femmes d'Europe, publiant des informations réunies par des femmes sur des femmes. Ce bulletin n'est pas seulement destiné à être lu, il peut aussi être prêté, critiqué, etc. Vos commentaires et vos informations. C'est pendant, entre 1977 et 1991, ce bulletin Femmes d'Europe, qui était envoyé gratuitement à qui le demandait, a permis la circulation de l'information et permis des avancées dans les politiques européennes d'égalité. Donc ça, ce sont les femmes fonctionnaires.
Señoras, más. cabeza, no tienen miedo a nada. Y si les dices algo, te mean en la cara, te mean en la cara, te mean en la cara.
Et oui, vous êtes toujours sur les oreilles loin du front, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'était Señoras Bien, deux duos de catalanes complètement azimutées. Ce soir, on vous parle de l'Europe, on vous parle de l'Europe et des femmes. On vous passe des extraits d'une intervention de Françoise Thébault qu'elle a donnée autour de l'ouvrage collectif L'Europe, une chance pour les femmes, point d'interrogation, qui est paru aux éditions de la Sorbonne cette année, en février 2019. Alors, dans les deux extraits précédents, on a fait un peu le tour avec elle des différentes femmes, les mères fondatrices de l'Europe, les premières femmes fonctionnaires européennes, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que les femmes ont fait pour l'Europe. Et puis, on va aborder maintenant le second aspect, en fait, le début de l'institutionnalisation de la question de l'égalité en Europe, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que l'Europe va faire pour les femmes, qu'est-ce qu'elle pourra faire pour les femmes. Et cette histoire s'est d'abord jouée avec la synergie, la collusion entre ces premières femmes fonctionnaires dont on vient de parler à l'instant, et puis des femmes non fonctionnaires, des expertes, des sociologues, des juristes, qui ont travaillé en Europe et qui ont, avec les femmes fonctionnaires, travaillé aussi à produire des rapports pour mettre à l'agenda la question de l'égalité. Et cette égalité, c'est d'abord poser la question de l'égalité, pardon, dans le domaine du travail. Alors, égalité du travail, égalité des salaires. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant avec Françoise Thébault.
L'ouvrage met aussi en évidence des femmes non fonctionnaires qui ont gravité autour de la communauté, des institutions européennes, et ont œuvré en synergie pour l'égalité homme-femme. Je n'en citais que deux. L'ouvrage cite notamment des expertes, donc auprès de la Commission européenne, comme la sociologue française que vous connaissez sans doute, Evelyne Sulraux, 1924-2017. Evelyne Sulraux a fait deux travaux importants, grande amie de Marguerite Thibert aussi, qui s'était retrouvée au mouvement démocratique féminin, le laboratoire féminin de la gauche non communiste dans les années 60. Donc Sulraux a fait deux travaux importants pour l'Europe. En 68, un rapport sur l'emploi des femmes et ses problèmes dans la communauté économique européenne, qui a été un jalon vers l'élaboration des directives égalitaires. Et un deuxième rapport, en 1984, un rapport sur la diversification des choix professionnels des jeunes filles et des femmes, où elle formule 80 recommandations, dont 78 vont être adoptées par le Conseil de l'Europe. Deuxième femme qui est citée, et c'est sans doute la femme la plus citée dans l'ouvrage, il y a un index final. Il y a à la fois, j'ai oublié de le dire, des illustrations, parce que comme c'est une matière assez difficile à aborder, on a mis quelques illustrations, dont certaines sont assez drôles. Et il y a des chronologies à la fin, et il y a un index des noms de personnes. Donc la personne la plus citée, c'est une Belge, sur laquelle un film est en train d'être fait. Elle s'appelle Eliane Fogel-Polsky, 1926. 2015, qui a beaucoup œuvré à l'élaboration des deux premières directives, dont je vais reparler tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est la phrase sur laquelle je voudrais faire un tout petit commentaire. Cette Eliane Fogel-Polsky s'est rendue compte, et je vais reparler bientôt, de la grève d'Herstal, la grande grève. On parle parfois de grève européenne, première grande grève européenne, la grève de la fabrique nationale d'armes belge d'Herstal en 66, qui a été un échec. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas obtenu l'égalité salariale qu'elles demandaient. Hélène Poglaskowski en a tiré la conclusion qu'il fallait poser la question de l'égalité sur le plan du droit. Et donc, faire des demandes, enfin des procès auprès de la Cour de justice des communautés européennes. C'est ce qu'elle dit. Je me suis rendu compte que le droit était un outil pouvant réellement servir une lutte et j'ai pensé que c'était important de faire ce travail. Ce fut mon révélateur personnel qui m'a mené au féminisme. Et notamment, cette femme, avec une autre, va jouer un rôle dans le procès de Fresnes contre Sabena et obtenir une victoire en 76 de Fresnes-Sabena 2, dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, à partir des années 80, là je vais très vite en deux mots, cette synergie entre fémocrates à l'intérieur de l'institution, qui ont de plus en plus de poids, Jacqueline Denon, Faustin Desormes-Lavallée et puis d'autres, et les militantes ou les expertes à l'extérieur de l'institution, cette synergie grandit avec une multiplication des mobilisations féminines, un contexte international favorable, l'année internationale des femmes, la décennie internationale des femmes, le nouveau féminisme et ses mobilisations, et puis aussi tous les travaux scientifiques qui vont se développer autour des questions qu'on n'appelait pas encore forcément au début des questions de genre, qui permettent également d'aller plus loin. Donc sur tout cela, il y aura encore beaucoup de recherches à faire. L'ouvrage éclaire quelques cas. Alors, cela fait transition donc à ma deuxième grande question que je voudrais poser. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ouvrage sur la question « Qu'est-ce que l'Europe a fait aux femmes ?» Peut-on parler d'une Europe progressiste pour les femmes, comme le sous-entend cette belle affiche, produite sans doute par les institutions européennes au début, au moment de signature du traité de Rome, une affiche où on voit 6 Européennes habillées à la mode des années 50, les jupes larges et les jupes sont les drapeaux. Ces Européennes, jeunes, affichent leur enthousiasme pour une entité qui doit apporter le progrès et la paix. Alors, l'ouvrage fait référence dans de nombreuses contributions à ce fameux article 119, le seul article qui, dans le traité de Rome en 1957, fait allusion à l'égalité homme-femme, en l'occurrence l'égalité salariale. Chaque État membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. Et puis la fin de l'article précise ce que signifie rémunération et comment on fait quand on paye aux pièces ou quand on paye autant. Alors, c'est quand même un article d'une portée limitée, notamment par la notion de même travail. Il y avait déjà à l'époque la Convention 100 de l'Organisation internationale du travail, adoptée en 1951, où on parle pas seulement de même travail, mais de travail de même valeur, ce qui est beaucoup plus large, parce que rarement hommes et femmes font le même travail. Alors, ce que montre une communication, une contribution de Laura Frader, c'est qu'il n'a pas du tout été adopté. Alors, Jacqueline Nonon avait une formule assez amusante pour dire ça. Elle dit, l'article 119, c'était pas pour le bonheur des dames. Je crois que ça résume bien la teneur du propos. Pourquoi a-t-on, c'est la France qui a souhaité l'inscription de cet article dans le traité, parce que la France avait peur de la concurrence de l'industrie textile allemande, où les femmes, les ouvrières du textile allemand étaient particulièrement sous-payées. Sous-payées par rapport aux hommes allemands, mais aussi sous-payées par rapport aux ouvrières du textile en France. Bon, de plus, c'est un article fort peu appliqué, bien que ce soit écrit au cours de la première étape. Ça n'a pas du tout été là. On est passé à la deuxième sans que l'article ait été réellement appliqué. D'où le fait qu'il suscite une très grande grève en 1966 à la fabrique nationale d'armes d'Herstal en Belgique, c'est près de Liège. Alors, vous voyez un magnifique atelier avec des femmes machines. On les appelait parfois les femmes machines. C'est une énorme entreprise hein, dans laquelle il y a à peu près 7000 ouvriers hein, et 3500 ouvrières. Les femmes se mettent en grève au nom de l'article 119 hein, qui n'est pas appliqué pour obtenir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Ça met les hommes au chômage technique. C'est une grève qui dure très longtemps, hein, 12 semaines. Et qui fait aussi, il y a eu un film qui a été fait hein, sur cette grève, et qui où finalement les femmes entre elles, hein, c'est un peu comme l'IP, la grève chez l'IP ou la grève chez PIL, où les femmes vont discuter non seulement des salaires, mais aussi de la vie familiale, de la contraception, des enfants, etc., etc. Dans cette grève se révèlent quelques femmes leaders, mais dont on ne sait pas grand-chose, notamment Charlotte Augustin. Hein, femme au fichu, c'est aussi les. On peut réfléchir aussi sur. À l'époque, une femme d'un milieu populaire porte très facilement un fichu sur la tête. Ça n'a pas de signification particulière. Cette grève va mettre en scène aussi de nouvelles actrices, les juristes, des juristes comme Eliane Fogel-Polsky se rapprochent des grévistes hein, et vont constater que malgré l'ampleur de la grève, malgré une véritable solidarité internationale. Là, vous avez, j'aime bien cette photo, une manifestation avec des pancartes égalité en différentes langues de l'Union européenne. Malgré cette solidarité, malgré l'ampleur, la grève est, si on parle de sa revendication principale, la grève est un échec. Les femmes obtiennent bien une augmentation, mais pas du tout pour mettre en œuvre l'égalité entre les hommes et les femmes. D'où l'idée d'Eliane Fogel-Polsky dont je vous parlais tout à l'heure, de porter la question de l'égalité au niveau du droit et de soutenir des femmes qui demandent auprès de la communauté à ce qu'elles soient traitées de façon égale.
La ville limitée, les portes se ferment, les piquets se forment, grève illimitée, les bras fatigués, les laissent la chaîne, les tours sont muets, grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines, ce n'est qu'un début. Mobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère, la queue s'est pointue. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution, la révolution. Quand elle unit des camarades, la colère, la colère. Quand elle unit des camarades, la colère monte en barricade. Sorbonne libre, sans ciel, Odéon, partout l'amitié, la Sorbonne libre. Ils nous ont chassés à coups de matraque, ils nous ont volé la Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère. Quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre. Ce n'est qu'un début, on est toujours là, tenons le combat, ce n'est qu'un début. Nous avons le temps d'aller en prison, nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, continuons le combat, 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 ce n'est qu'un début.
Et oui, vous êtes toujours sur Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel et vous l'avez reconnu, c'était Dominique Grange qui chantait La Grève. Puisqu'on vient de revenir avec Françoise Thébault hein, sur la grande grève d'Herstal qui avait pour objet les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, hein, les ouvriers, les ouvrières. Alors cette grève a été un échec. Hein. C'est une grève européenne, c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que Françoise Thébault en parlait, puisqu'on vous passe des extraits ce soir de son intervention autour de l'ouvrage collectif « L'Europe, une chance pour les femmes », à travers lequel les chercheurs et les chercheuses se posent deux questions. Hein. Qu'est-ce que les femmes ont fait pour l'Europe et qu'est-ce que l'Europe a fait pour les femmes ? Donc on vient de voir que ce que l'Europe a fait pour les femmes au début, c'était pas grand-chose, hein, en tout cas en termes de... d'égalité, égalité du travail, égalité salariale. Et puis, à l'issue justement de l'échec hein, de cette grève d'Herstal, puisque voilà, les salaires ne se sont pas égalisés, eh bien, les fonctionnaires européennes et autres fémocrates, hein, comme les appelle Françoise Thébault, se sont saisis d'une autre stratégie, à savoir la stratégie juridique. Et la question de l'égalité prend un tournant législatif hein, au niveau européen, notamment avec la bataille juridique hein, qui a opposé Defrenne, qui était une hôtesse de l'air, et, contre Sabena, sa compagnie aérienne. Alors on écoute tout de suite Françoise Thébault revenir sur l'histoire juridique de l'égalité en Europe, menée évidemment par des fonctionnaires européennes, par des non-fonctionnaires européennes et par des femmes.
Les premiers cas, c'est l'échec au début, notamment le Defrenne Sabena 1. Defrenne, c'est une hôtesse de l'air qui proteste contre la compagnie nationale belge, Sabena, parce qu'elles étaient obligatoirement mises à la porte à 40 ans. Les femmes, pas les hommes. Donc, naturellement, plus elle n'était pas retraitée, elle ne peut pas avoir la retraite à 40 ans, donc elle n'était pas du tout traitée de façon égale. Au début, hein, le premier procès de Frenz Sabena devant la Cour de justice est un échec, mais progressivement, on va arriver au Frenz Sabena 2, hein, grâce à ces juristes Pogelposki et aussi Marie-Thérèse Cuvelier. C'est ce que ces femmes appellent un arrêt historique de la Cour de justice. Obtiennent d'une part l'application directe de l'article 119 dans tous les États membres, hein, même si vous savez, aujourd'hui ce n'est même pas encore totalement appliqué. Hein. Et autre chose importante, la Cour reconnaît en outre que la communauté ne se limite pas à une union économique, hein, mais doit assurer en même temps le progrès social, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement de niveau de qualité de vie, la cohésion économique et sociale. Cette prise de conscience se greffe dans les années 70 hein, sur un contexte international favorable, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, hein, à la fois à l'ONU, le mouvement néo-féministe. L'Europe édicte alors, hein, c'est à peu près le premier étage, pourrait-on dire, de la politique égalitaire, hein, ces trois directives importantes du milieu des années 70, véritable socle de la politique d'égalité communautaire. La directive de 75 relative au principe de rémunération, celle de 76 l'égalité de traitement, mais en matière professionnelle. On est toujours dans le domaine du travail. Et progressivement, il y aura élargissement du travail à d'autres aspects de la vie sociale globale. Et la troisième directive relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale qui vise à une plus grande individualisation des droits de la sécurité sociale et donc qui ne peut qu'avoir des répercussions hein, sur le plan des droits civils, de la politique familiale et décrochant donc l'article 119 du socle restreint du travail. Alors, l'autre jour j'ai présenté ce livre et il y avait Geneviève Fraisse qui avec moi présenté son expérience de députée européenne au début des années 2000. Elle dit que l'article 119 pour elle, elle appelle ça une ruse de l'histoire. C'est-à-dire à partir d'un article qui n'a pas été fait pour le bonheur des dames, on arrive par l'action de fémocrates internes et de mouvements internes, par la grève d'Herstal, par les mobilisations sur la question du droit, hein, on arrive à un élargissement de la notion d'égalité. Alors, dans le même temps de ces directives, hein, les femmes montent en puissance au Parlement, hein, et le passage d'un Parlement au Parlement élu au suffrage universel fait grossir la part des femmes au Parlement européen de 6% avant 79 à 16%. Hein, et puis ensuite, il y aura une augmentation de la part des femmes au Parlement européen. Bon, si on compare avec la France, bien avant les lois sur la parité, en France, au début des années 90, on est vraiment très très bas. À l'Assemblée nationale, on doit être à 5-6%, les mêmes taux qu'à la Libération. Et là, vous aviez déjà 26%, et ça augmente. Bon, je ne sais pas ce que donneront les élections. Ce premier Parlement européen crée une commission ad hoc sur les questions des droits des femmes, dans lesquelles il y a une Française qui va jouer un rôle important, qui est Yvette Roudy. Alors là, c'est important, dans les années 70, à l'intérieur du PS, il y a une contestation interne des militantes femmes qui considèrent que le Parti Socialiste, le nouveau Parti Socialiste, est très très peu féministe et fait peu de place aux femmes dans ses structures. Donc il y avait une forte mobilisation qui avait abouti à un quota de 30% de candidates pour le Parti Socialiste en 1979. Et parmi les élus, il y a Yvette Roudy qui va devenir la présidente de cette commission du Parlement européen pour les droits des femmes, jusqu'à sa nomination comme ministre des droits de la femme en 81. Et Yvette Roudy va beaucoup s'appuyer sur l'Europe pendant ses années de ministère des droits de la femme, et notamment lorsqu'elle va rencontrer des résistances à l'intérieur du gouvernement, des gouvernements de l'époque, elle va essayer de s'appuyer sur l'Europe. Alors cette commission devient permanente en 1984. Alors l'autre jour, je ne le savais pas, Geneviève Fraisse rappelait que certes cette commission est extrêmement importante, mais elle n'est pas considérée comme une commission principale. Elle nous a dit, c'est comme la commission de la pêche, il faut être aussi dans une autre commission, parce que ce n'est pas une commission principale. Donc les structures sont désormais en place pour développer des politiques européennes d'égalité hommes-femmes. Dans les années 80-90, le constat est fait par les mouvements de femmes, les féministes, que les seules directives qui établissaient une égalité formelle ne suffisent pas à instaurer une égalité réelle. Et cela amène à un changement de politique. L'Europe élabore alors une politique d'égalité des chances, fondée sur des actions positives, pour rattraper en quelque sorte les retards dont sont victimes les femmes. Alors ces politiques d'égalité des chances ont été plébiscitées par les féministes et par les juristes à l'époque, comme Eliane Fogel, par exemple, je vous la cite. Le côté séduisant de la stratégie des actions positives, c'est qu'elle vise à faire aboutir une égalité de résultats. Il s'agit de créer une dynamique qui dépasse l'égalité purement formelle, en reconnaissant que les rapports sociaux de sexe amoindrissent les chances des femmes dans la vie économique et sociale. On passe d'une logique de protection juridique abstraite et neutre à une logique de promotion de l'égalité concrète. Mais progressivement, cette politique montre aussi ses limites. On a plusieurs contributions qui en montrent les limites, parce que, d'abord, elle est mal appliquée, mais aussi parce qu'il s'agit seulement d'un simple rattrapage d'un modèle masculin. Et d'autre part, troisième raison aussi, c'est que cette politique est mise à mal par un autre arrêt important de la Cour de justice des communautés européennes, qui est l'arrêt Kalanke en 1995, où un Allemand, donc M. Kalanke, c'est pas un nom très allemand, mais M. Kalanke, obtient devant la Cour de justice que la nomination d'une femme qui n'était pas plus diplômée que lui pour un poste important de la municipalité de Brême, soit cassé. Bon, là, l'arrêt Kalanke, il est un petit peu alambiqué, si j'ai bien compris. J'ai essayé de le trouver, je n'ai pas trouvé ça extrêmement clair. En tout cas, c'est un point d'arrêt à la politique de d'action positive, mais plus pour me dire action positive que discrimination positive.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, c'est les oreilles loin du front. Ce soir, on n'a pas d'invité en plateau, mais on vous passe des extraits d'une intervention de Françoise Thébault autour de l'ouvrage collectif « L'Europe, une chance pour les femmes ». Et donc, Françoise Thébault, qui est une historienne spécialiste de l'histoire des femmes et du féminisme, qui a beaucoup travaillé sur le genre des institutions, notamment elle a travaillé sur l'Organisation internationale du travail. Elle a donc s'est occupée de publier ce livre « L'Europe, une chance pour les femmes », qui est paru très récemment, en février 2019, aux éditions de la Sorbonne. Et donc, elle nous a parlé des premières mères fondatrices de l'Europe, pour vous mettre un peu dans la balance par rapport au père fondateur. Sans oublier, bien sûr, toutes les professions féminisées, hein, tous les métiers de femmes au sein de l'institution européenne, hein, les interprètes, le secrétariat, etc. Et puis, elle nous parlait à l'instant de la lente institutionnalisation de l'égalité femmes-hommes en Europe, hein, depuis les premières directives jusqu'aux politiques d'action positive, mais aussi avec leurs limites, hein, les limites des actions positives, c'est-à-dire toutes les lois qui visent à contrebalancer le sexisme, notamment dans le cadre du travail. Et puis, elle s'est arrêtée justement au coup d'arrêt, hein, de toutes ces mesures d'action positive qui est due justement à l'arrêt Calanque du nom d'un homme vraisemblablement masculiniste qui n'a pas supporté de voir son poste, sa candidature remise en question par une mesure d'action positive, puisqu'il était en concurrence avec une femme. Alors, puisqu'on parle de l'Europe, eh ben, on pense forcément au couple franco-allemand. Et d'ailleurs, c'est une des parties, hein, de cet ouvrage collectif, l'Europe, une chance pour les femmes. Et moi, quand j'entends couple franco-allemand, forcément, je pense à Nina. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de vous la programmer ce soir.
Hello, hello, hello.
Et oui, vous êtes toujours sur les oreilles loin du front, c'est Fréquence Paris Pluriel. Et puis, vous l'avez peut-être reconnu, c'était Nina Hagen, mais pour une fois, elle chantait pas 99 Chichlouf Ballon, mais elle chantait African Reggae. Toujours aussi folle, un morceau qui est complètement, complètement fou. Ce soir, on vous parle de l'Europe et des femmes avec Françoise Thébault, qui a fait une intervention il y a un mois à peu près dans le cadre des conférences Présage, qui est le groupe de recherche sur le genre à Sciences Po. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'intégralité de cette conférence sur leur site. Il suffit de vous taper conférences Présage sur un moteur de recherche et puis vous allez tomber sur toute leur programmation et sur toutes leurs conférences. Puis on vous mettra un petit lien aussi sur notre site à nous. Donc on vous passe des extraits de cette intervention de Françoise Thébault autour d'un ouvrage collectif sur l'Europe et les femmes. Alors, on avait vu juste avant la pause la lente institutionnalisation de l'égalité femmes-hommes. Et dans le dernier extrait qu'on vous propose ce soir, on revient avec elle très rapidement sur l'histoire de l'imposition du concept de parité en Europe au niveau institutionnel jusqu'à ce nouveau concept qui est le gender mainstreaming, c'est-à-dire le fait que le genre doit être pris en compte dans toute politique d'action publique. Évidemment, ça ne va pas sans résistance, mais on garde espoir avec Françoise Thébault. On l'écoute tout de suite.
Une autre réflexion autour, non pas des actions positives, mais autour d'un nouveau concept, le concept de parité. Et là, l'Europe a beaucoup fait pour l'élaboration du concept de parité, et y compris sur le Conseil de l'Europe, qui est une autre institution européenne, et qui a beaucoup œuvré au début pour le concept de démocratie paritaire dès la fin des années 80. Alors, pour parvenir à la parité, une nouvelle méthode est discutée et mise en place dans les années 90, celle du gender mainstreaming, ou de l'intégration de l'égalité dans toutes les politiques publiques de l'Europe, adoptée par l'ONU, adoptée par l'Europe. Donc elle vise à intégrer de manière transversale la perspective de genre dans toutes les politiques publiques. Et la promotion de l'égalité est considérée comme une mission de l'Union européenne. Mais de manière toujours non contraignante, ce que l'ouvrage souligne à diverses reprises. Et aucune réponse légale n'est prévue en cas de non-application de ce principe d'égalité. Bon, on n'en parle pas beaucoup, mais on aurait pu évoquer de nouvelles directives de ces années-là, notamment celle de 1997, qui inverse la charge de la preuve en matière de discrimination. Ce n'est plus à la discriminée de fournir la preuve qu'elle l'est, mais à l'institution qui discrimine de prouver qu'il ne l'a pas fait. Ou bien on aurait pu évoquer aussi la révision de la directive de 76 qui notamment introduit le harcèlement comme une forme de discrimination. L'égalité peut s'appuyer aussi sur la charte des droits fondamentaux adoptée en 2000 et qui prend un aspect contraignant à partir de 2007. Mais là aussi, c'est contraignant, mais il n'y a pas de sanctions prévues en cas de non-application. Et puis là aussi, bon, quand j'ai lu hier soir toute la charte, c'est toujours marqué dans le respect du principe de subsidiarité, dans le respect de l'individualité de chaque nationalité, etc., etc. Donc bon, il y a un principe, mais en même temps, on reconnaît des différences et semble-t-il, on a des moyens de ne pas respecter ces principes. Ce qu'il est important de souligner, c'est que dès le traité d'Amsterdam, mais encore plus dans le traité de Lisbonne, la discrimination de sexe est ramenée à une catégorie parmi d'autres. Il y a une sorte de dilution de la discrimination homme-femme dans l'ensemble de discriminations liées à la race, l'origine ethnique, la religion, les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Bon, je ne devrais se rappeler l'autre jour aussi qu'un jour il a fallu rappeler à un fonctionnaire de la Commission européenne qu'il fallait pas mettre les femmes avec les handicapés. C'était pas exactement la même chose d'avoir une politique pour les handicapés et une politique pour les femmes. Alors, dans ce cadre, des contributions montrent quand même combien l'application de cette politique d'égalité, alors souvent plus progressiste que les politiques adoptées dans la plupart des États membres. Ça, je crois que c'est important de souligner. L'ouvrage voulait vraiment dire que la politique d'égalité, c'est le fleuron de l'égalité sociale, de la politique sociale de l'Europe. on n'a pas toujours conscience, mais son application s'avère complexe et variable selon les pays. Des contributions soulignent également la capacité de résistance des pays membres, la persistance des préjugés et des stéréotypes, mais aussi donc l'incompréhension des politiques de gender mainstreaming. La contribution de Gwenaëlle Perrier sur les politiques d'emploi à Berlin et en Seine-Saint-Denis montre que malgré les politiques de formation du personnel sur ce qu'est l'adoption du principe de gender mainstreaming, il y a à la fois une incompréhension, une certaine résistance, une certaine inertie, et que finalement cette gender mainstreaming n'est pas véritablement appliquée. Par ailleurs, et j'ai bientôt avoir fini, l'UE reste une organisation supranationale discriminatoire. Alors, si on observe la part des femmes dans la commission, mais là c'est de la faute des États, les deux premières femmes commissaires en 89, Christiane Scrivener, la française, et la grecque Vasso Papandreou. Aujourd'hui, 9 commissaires femmes sur 28, mais bon, ce sont les États membres qui choisissent les commissaires. Si on regarde la fonction publique européenne, alors, je ne voulais pas de contribution globale sur le genre de l'administration européenne et son évolution, mais on a quand même souligné que les premiers recrutements de femmes se font en bas de l'échelle, hein, et c'est tous les témoignages oraux recueillis qui sont aux archives de Florence, où même des femmes très qualifiées, hein, avec des diplômes universitaires, ont été au début recrutées en bas de la hiérarchie. Deuxième remarque, un état des lieux en 86 avait été demandé à la commission. La commission, et c'est vrai aussi de l'OIT, ne s'appliquait pas à lui-même les politiques qu'il demandait aux États d'appliquer. Donc l'état des lieux en 86 souligne les discriminations dont sont victimes les femmes. Et à l'OIT, ça a eu lieu dans les années 70. On a fait un état des lieux, on s'est dit, ah, bah, on est très très loin de toutes les conventions qu'on a fait adopter. En 2017, l'UE emploie 43 000 fonctionnaires, la commission 33 000. Donc, commission féminisée, 55% de femmes parmi la fonction publique européenne, mais 39% aux postes d'encadrement et de direction, et 25% aux trois grades les plus élevés. Si je prenais le grade le plus élevé, ça serait encore, je ne sais pas chercher là, beaucoup moins. Donc, une Europe qui est encore, enfin, une institution qui est encore discriminatoire. Par la dernière partie, donc 4 contributions seulement sur le couple franco-allemand. Mais c'est autour essentiellement de l'application des politiques, la comparaison de l'application des politiques en France et en Allemagne. Et c'est intéressant parce que montre que toutes les traditions nationales, toutes les cultures nationales ressortent et font que les applications sont différentes. Les directives sont contraignantes, mais c'est un principe. Par contre, l'application, la façon d'appliquer du ressort des États. La dernière partie a aussi une contribution assez amusante autour de la métaphore du couple franco-allemand et des caricaturistes qui ont représenté ce couple franco-allemand. Je n'ai pas développé, mais l'Europe, c'est bien sûr des directives, une politique égalitaire, c'est aussi des programmes, notamment le programme de lutte contre les violences faites aux femmes. Hein, Daphné est évoqué à différents. Et c'est aussi des financements. C'est le nerf de la guerre, quand même, l'argent. Hein. Mais la dilution donc, de ces discriminations, dans l'ensemble des discriminations, fait qu'il y a moins d'argent dédié aux politiques de lutte pour l'égalité homme-femme. Mais globalement, l'ouvrage, je voudrais quand même souligner que l'Europe est en avance sur les questions d'égalité homme-femme, que la politique d'égalité homme-femme, c'est un fleuron de l'Europe sociale, qui n'est bien sûr insuffisante, et l'Europe est critiquée parce que elle est plus un marché qu'une vision, qu'une Europe sociale, etc., etc. Mais en général, bon, on a fait 2-3 conférences, les trois collègues, là, on a décidé que le dernier mot, ça serait une phrase de Simone Veil, en 1979, « L'Europe n'est pas un remède, mais un formidable espoir ». Voilà. Merci.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, c'est les oreilles loin du front. Et puis, on vient de couper la chic à Françoise Thébault qui était en train de nous dire merci. C'est des extraits issus d'une intervention qu'elle a donné autour de l'ouvrage collectif « L'Europe, une chance pour les femmes ?», point d'interrogation, où elle revient à la fois sur, avec d'autres chercheurs et des chercheuses, hein, puisque c'est un ouvrage collectif, où ils reviennent à la fois sur l'institutionnalisation de la question de l'égalité femmes-hommes en Europe, mais aussi le genre des institutions, c'est-à-dire, en gros, quelle est la place pour les femmes fonctionnaires, quelle est la place pour les femmes tout court dans l'institution européenne, quelle a été la contribution de toutes ces petites mains féminines, quelle était la contribution de tous ces métiers féminins, notamment les métiers d'interprétariat, les métiers de secrétariat aussi, hein, dans les institutions européennes. Alors cet ouvrage, on a décidé de vous passer des extraits parce qu'évidemment, il est d'actualité, hein, par rapport à l'Europe. C'est un ouvrage collectif, je le rappelle, qui s'appelle L'Europe, une chance pour les femmes, point d'interrogation. Il est paru aux éditions de la Sorbonne en 2019. La conférence a été enregistrée dans le cadre des conférences Présage, qui est le groupe de recherche sur le genre de Sciences Po. Et vous pouvez retrouver toutes leurs conférences et vous pouvez retrouver cette conférence en particulier en intégralité sur leur site. Alors, je n'ai pas le site en tête. Il faut taper Présage dans votre moteur de recherche préféré, conférence Présage dans votre moteur de recherche préféré et vous tomberez dessus sans aucun problème. Cette intervention faisait écho aussi à une émission, hein, des Oreilles loin du front. Donc, je rappelle qu'on a un site, hein, sur lequel il y a toutes nos émissions en ligne. L'émission à laquelle je pense, hein, c'était l'émission autour du livre de Julie Legac et Fabrice Virgili, L'Europe des femmes. On avait reçu ici en plateau d'ailleurs Julie Legac et Louis-Pascal Jacquemin, hein, qui avaient participé à cet ouvrage qui était aussi un ouvrage collectif. Alors, qui abordait le thème des femmes en Europe, mais plutôt du côté des européennes, hein, plutôt que du côté des fonctionnaires européennes ou des expertes européennes, en tout cas pas vraiment des femmes dans l'institution, mais des femmes qui vivent en Europe. Donc voilà, c'était un peu la conclusion de ce soir, et on est bien contente que ça se termine sur une note d'espoir, hein, comme le rappelait Françoise Thébault, qu'on a entendu pendant presque 1h10 maintenant. L'Europe est en fait sans doute pas une solution, mais quand même un espoir. Et alors, on vous a passé des pauses musicales européennes, mais on ne peut pas s'en empêcher, hein, comme il s'agit aujourd'hui des femmes et des fémocrates en Europe qui ont su faire carrière et qui ont su tracer leur voie dans l'institution européenne, et ben en fait de vous proposer cette pause musicale. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own carnal and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I bought. The clothes I'm wearing, I bought. The rock I'm rocking, I bought.
Taught and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want.
Shoes on my feet, I
bought.
Clothes I'm wearing,
I bought.
The rocks I'm rocking,
I bought.
Cause I depend on me if I want it.
The watch I'm wearing,
I bought.
The house
Et oui, vous êtes toujours sur les oreilles loin du front, toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Vous les avez reconnus, c'était les Destiny's Child qui chantaient Independent Women. Puisque ce soir, on parlait de l'Europe et des femmes, mais sous un angle un peu institutionnel, avec Françoise Thébault, hein, qui est historienne et spécialiste de l'histoire des femmes. Alors, on avait conclu sur une note un peu d'espoir, hein, puisque Françoise Thébault rappelait que, avec Simone Veil, hein, que l'Europe n'était certainement pas une solution, mais un immense espoir. Et